Gloire à Dieu, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ce matin, le pasteur Nicole nous a développé sur ce thème Abba, Père. Vous avez apprécié cette méditation, ce développement de la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons partager une rupture avec son Père. Et toute la parole de Dieu nous montre que de rupture entre le fils, la fille, son papa ou sa maman. Si je regarde, par exemple, Rebecca, qui dit à son mari à cause d'un fils, d'un adulte qui a dit « Je suis dégoûté de la vie, à quoi me sert la vie ?» Un événement familial peut bouleverser, quand tout va bien, Dieu soit béni, notre langage est différent, mais quand tout va mal, à quoi me sert la vie? Je suis dégoûté de la vie. Et on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, un prophète, on aurait pu dire, car on ne sait comment s'est terminée sa vie, à quoi me sert la foi? À quoi me sert la religion? La vie m'est préférable à la mort. Donc c'est le contraire. La mort m'est préférable à la vie. Et j'aimerais avec vous que l'on ouvre la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 18e, verset 33e. Alors le roi, saisi d'émotion, pardon, c'est 2 Samuel, chapitre 18e, verset 33e. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom ?» mon fils, c'est un roi qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle l'a amené à être saisi d'émotion, à monter dans la chambre au-dessus de la porte et pleurer. Et la Bible nous dit qu'il marchait de long en large. Mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. » Quelque temps auparavant, la Bible nous montre aussi que David avait eu un événement familial. Et la Bible dit qu'il pleurait tous les jours son fils. Un jour, je me trouvais à un service funèbre, et puis la personne qui venait de perdre son épouse dans une situation dramatique me dit: « C'est terrible, j'ai tellement été spectateur dans tous les services funèbres que là je suis acteur. » Quand on écoute et que l'on n'est point concerné, on se dit « c'est triste, c'est dramatique ». Mais quand on se sent concerné, les choses changent, et la Bible dit « David pleurait tous les jours son fils ». Si l'on regarde aussi, son fils Amnon avait fait quelque chose qui était indigne. Et la parole de Dieu nous rappelle que David, Amnon, c'était l'un de ses fils, et Tamar, l'une de ses filles. Je passerai sur tous les détails, mais devant les pressions de son frère, de cette jeune fille, voulant, elle est repoussant, elle dit à son frère: « Mais où irai-je avec ma honte ? Tu m'auras sali, tu m'auras rejeté, je serai dehors, où irai-je avec ma honte ?» Et Absalom, lorsqu'il a pris ça, la Bible dit, eh bien, que dans son cœur est venu pour lui de faire un rassemblement familial, et lorsque le cœur d'Amnon fut égayé par le vin, Absalom avait donné l'ordre de supprimer son frère. Voilà donc David dans quelle situation il se trouve. Et un homme qui est brisé. Et j'aimerais vous aider, s'aider. Car à une période de sa vie, on a pu se retrouver dans une période difficile. Et il se peut que vous soyez dans une période difficile. Mais ce qui est aussi, c'est comment faire pour sortir de cette période difficile pour que la grâce de Dieu se manifeste dans tout notre cœur. Absalom, devant ce qu'il a commis, fait commettre, la Bible nous montre qu'il s'est enfui. Et au bout d'un certain temps, il a désiré revenir sur Jérusalem. Mais il y avait une rupture entre le père et le fils. C'est toujours facile, à mes yeux, de pouvoir donner des conseils de l'extérieur. Et donc, il y a eu des intermédiaires pour que Absalom puisse revenir à Jérusalem. Quand il y a une rupture, c'est difficile. Et Absalom est donc revenu à Jérusalem. La Bible nous montre qu'en réalité, et ce n'est pas interdit, Absalom était un homme joli. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et dans tout Israël, il était renommé pour sa beauté. C'est formidable quand même d'être un jeune homme et de savoir qu'on est le plus beau dans tout Israël et de savoir que l'on dit et qu'on disait de lui qu'il était renommé pour sa beauté et il n'y avait pas un homme aussi beau que lui. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Si j'étais là me trouvant devant une réunion de jeunesse, dans une réunion de jeunesse, j'aurais beaucoup de choses à dire aux jeunes gens et aux jeunes filles d'une telle beauté extérieure. La Bible nous montre qu'il avait aussi un poids de chevelure incroyable. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas interdit d'être joli. Les garçons, vous avez des beaux cheveux. Et peut-être vous prenez un certain produit pour que ça soit très très bien quand même. Hein? Et vous vous dites, un look formidable. Formidable pour mon look. Un petit garçon là, il est mignon comme tout aussi ce petit. Et je parlais avec lui et je voyais qu'il avait des belles choses, une belle chose à la main. Et puis après, j'ai mis un petit peu là, j'ai dit, tiens, ça va être un petit peu mieux comme ça. Mais c'est vrai, c'est formidable. Les enfants, les garçons, les filles, là, le look, la mèche. Bah écoutez, ça fait partie de la vie quand même. Et Absalom, s'il a cette beauté extérieure, si Absalom, son nom, ça veut dire prince de paix, intérieur, c'est pas aussi formidable que ça. Et c'est là tout le problème. On peut avoir une beauté extérieure, et puis réjouissez-vous de votre beauté extérieure, après tout, puisque la Bible nous en parle. Mais la beauté extérieure est une chose, est-ce qu'il y a aussi cette beauté intérieure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la paix intérieurement? Est-ce que intérieurement, ça respire la sainteté, ça respire le calme, ça respire la paix, ça respire la joie? David avait beau être le roi, mais c'était aussi qu'un homme. C'était un chrétien. C'était un serviteur de l'Éternel. Et on s'imagine que les hommes qui ont des grandes responsabilités sont des hommes qui ne pleurent pas, sont des hommes qui n'ont aucun problème. Tout leur sourit. Mais c'est absolument faux. L'histoire nous le montre. La Bible nous montre. Notre 21e siècle nous le montre aussi. C'est-à-dire que intérieurement, on peut se retrouver le plus seul. Et David, il est seul. Il a Dieu avec lui. Il a le Seigneur, l'Éternel. Il a une grande famille. Mais aussi, il a de sérieux problèmes à résoudre. La Bible nous montre aussi qu'Absalom, en réalité, non seulement il a mené la vie dure à son père, Et puis aussi, il va démontrer ce qu'il y a dans son propre cœur. Parce que la rupture avec son père, c'est que son père ne le comprend pas, mais lui ne se comprend pas. Et c'est terrible lorsqu'un fils dit à son père « je te comprends pas ». Et lorsqu'un fils dit à son fils « je te comprends pas ». C'est pas un langage de sourd, mais c'est un langage incompréhensible. Et je disais quelquefois à l'un de mes enfants, vous ne pouvez pas me comprendre. Mais moi, j'ai eu votre âge. Et quand vous aurez mon âge, vous comprendrez un peu mieux parce que le temps sera passé. C'est pas toujours facile. Le langage intergénérationnel. C'est pas toujours facile. Comme disait le pasteur Nicole ce matin, les premiers mots qu'un enfant, quand il dit que c'est non, c'est pas facile. Je me souviens quand notre aîné avait quelques mois, et pour mon épouse, c'était une très grande joie de qu'ils prennent le sein de sa maman. Et puis, le pédiatre dit un jour à mon épouse, « Mais vous allez quand même pas lui donner encore longtemps le lait. Il faut mettre un terme, il faut sevrer. » Oh, ça faisait déjà quelques mois. Je crois qu'il devait avoir au moins 6 mois. Mais vous savez, j'ai vu une petite fille à 6-7 ans, elle était encore au sein de sa maman. Des fois, ça peut être long, hein, sevrage. Ah oui, ça peut être long. Et donc, rentrant à la maison, j'étais très dynamique à cette époque, et je dis à mon épouse, il faut arrêter. Et bien sûr que dans ma vigueur, je ne savais pas tout ce qu'un enfant avait besoin dans le changement de lait. Tout est facile pour nous parfois. Alors, il est passé au biberon et il ne voulait pas le biberon. Alors, je vais vous faire sourire. Alors, j'appuyais sur la tétine pour que ça rentre dans sa bouche. Ma femme, elle a dit, écoute, t'es trop cruel, je m'en vais. Et puis elle nous a quittés quelques instants, et puis l'enfant n'a pas voulu boire. Alors il s'est tourné sa petite tête vers le mur, et mon épouse est revenue, et bien sûr elle l'a pris, mon petit chéri, ceci, cela, comme une maman sait parler, ah mon petit chéri, que tu es beau, que tu es mignon, elle l'a pris dans ses bras. Et puis elle a réglé le problème en quelques secondes. Hein. Je ne sais pas si le problème avait été réglé, mais enfin... Et puis elle a recouché, j'ai regardé mon fils. Hein, et vraiment, je m'attendais à un sourire. Et malgré ces 6 mois, il a tourné sa tête vers le mur. J'ai dit, il ne doit pas être content envers moi. C'est drôle qu'on manifeste du caractère dès qu'on vient à la naissance et on dit non. Je ne sais pas quel est le premier non. Ce que vous avez dit comme mot en premier, mais le oui a du mal à sortir de nous. Et le oui a toujours du mal à sortir de notre bouche, quel que soit notre âge. Et Absalom, va montrer ce qu'il a. Je disais, il ne comprenait pas son père, et son père ne le comprenait pas. C'est difficile lorsqu'un père ne comprend pas son fils et lorsqu'un fils ne comprend pas son père. C'est terrible. Et des fois, ils vont vous pousser à bout, ces enfants, ces petits-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils disaient, mais qui va m'établir roi ? C'est-à-dire, ils voulaient faire un coup d'État, ils voulaient prendre le royaume, renverser son père. Alors, il a mis quelque chose en exécution. C'est terrible lorsque le pouvoir veut vous gagner. Alors il dit à Achitophel, c'est un de ses conseillers, eh bien, il va gagner tout ce monde. Mais c'était facile. Il était là sur son char, des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui. Et puis, il s'était mis au bord du chemin. Puis tous les gens qui arrivaient, ils descendaient, se prosternaient devant l'homme, faisaient le saint baiser. Et puis, qu'est-ce que tu veux ? Ben écoute, ce que je veux, c'est avoir gain de cause devant le roi. C'est pas la peine de y aller, tu n'auras pas gain de cause. C'est pas la peine, tu n'auras pas gain de cause. Moi, je te donne gain de cause. Et la Bible dit qu'il a su gagner les gens autour de lui. Il a su les gagner autour de lui. Et il y a eu cette personne là, par centaines, et il a dit maintenant, c'est bon. Il gagnait le cœur des gens. Alors, au bout de 4 ans, Absalom dit au roi quand même, « Permets-moi que j'aille à Hébron, j'ai quelque chose à faire, j'ai un sacrifice. Quand j'étais séparé de toi, j'avais dit que je servirais l'Éternel s'il me ramenait à Jérusalem, alors c'est bon. » Voyez-vous, le père ne savait pas ce qu'il se passait, mais en réalité, à Hébron, il y avait beaucoup de monde qui s'est laissé gagner le cœur, et on disait « Vive le roi, vive le roi, vive Absalom !» Et quand on a dit ça à David, David a pris la fuite devant son peuple avec son peuple, une partie. Il marchait pieds nus, il était dans le deuil, et c'est triste, fuir. C'était triste pour lui, de voir cet homme qui pleurait, de voir cet homme qui était brisé, il a fui. Puis un jour, Achitophel, c'était un des bras droits de David. Et les conseils qu'Achitophel donnait, c'est comme si l'on avait consulté Dieu. Il venait de perdre son bras droit, l'un des meilleurs. Et son bras droit a tourné. Il a dû se dire, mais c'est terrible. Mais il a seulement fait une prière à Dieu, c'est que anéantit les projets d'Achitophel. Et pour gagner du temps, Achitophel, quand il a vu d'autres projets n'étaient pas exécutés, la Bible dit qu'il s'étrangla. C'est quand même impossible. Le bras droit de David, c'est quand même impossible que cet homme, c'est comme si l'on eût consulté Dieu. Ce qu'il donnait, ce qu'il disait, ça avait autant d'autorité de ce que Dieu faisait et disait. Ça vous bouleverse qu'un tel homme puisse aller s'étrangler. Mais Achitophel avait un problème dans son cœur. Ne laissons jamais l'amertume nous gagner. Réglons nos problèmes intérieurement, car un jour nos problèmes deviendront maîtres de nous. Achitophel, vous connaissez qui est Achitophel ? Vous savez qui était sa petite fille à Achitophel ? Vous connaissez son prénom ? Qui connaît son prénom ? Bathsheba. Ça vous dit quelque chose, Bathsheba ? Vous savez qui est Bathsheba ? Qui est Bathsheba ? C'était la femme de Uri. Et chacun connaît l'histoire. de David avec la femme d'Uri. Comment elle est devenue? C'était sa petite fille. Et ça, Achitophel, peut-être en avait-il parlé avec David, mais c'était resté dans son propre cœur. Cette racine de souffrance, cette racine qu'il avait. Et peut-être c'est pour ça qu'il a tourné, qu'il a changé. Mais toujours est-il qu'il a terminé terriblement. Et Dieu a fait en sorte qu'Absalom va terminer sa vie avec cette mule, ce mulet, et il va être pris dans ce grand térébinthe. Et le mulet va poursuivre, il est pris là. Et quand les hommes de Joab vont venir, ils vont transpercer son cœur. Voilà comment se termine la vie d'un homme. Et je voudrais conclure en disant, Jésus, c'est le prince de la paix. Mais vraiment, intérieurement, il a la paix en lui-même. Il est la source de la paix. Il est celui qui peut venir à notre aide et qui veut venir à votre aide. Absalom, avant qu'il meure, il s'était fait poser un monument. Et on s'est souvenu, puisque ce monument existe toujours, Jésus n'a jamais laissé de monument. Si vous, un jour, vous allez à Golgotha, à Jérusalem, vous ne verrez pas une croix. Vous ne verrez rien. Simplement que 2-3 cercueils qui sont là. Mais le prince de la paix est mort à Golgotha. Il est mort à Golgotha et c'est sur le lieu Golgotha qu'en réalité il nous a réconciliés avec le monde. Et c'est là quelque chose de merveilleux. C'est que sur ce Golgotha, il est devenu notre sauveur, le sauveur de tous les hommes. Et peut-être que dans votre cœur, ce soir, il y a une rupture. La première rupture, c'est la rupture d'avec Dieu. Pourquoi au cours de votre vie, y a-t-il eu une rupture avec Dieu? Pourquoi vous avez retiré Dieu de votre vie? Pourquoi ai-je retiré Dieu de ma vie pendant une période? Je le sais. Mais Dieu est celui qui veut renouer cette communion avec nous, qui ne nous a jamais abandonnés. Et peut-être qu'au plus profond de vous-même, l'Esprit de Dieu est en train de travailler pour renouer cette communion du Père avec vous et de vous avec le Père. C'est quelque chose de merveilleux de terminer dans les bras de son Père. J'ai connu, fut une période, un fils qui avait peut-être 18 ans, 18 ans et demi, 19 ans grand maximum, et un soir, ce garçon avec son père en sont venus aux mains, et si Dieu, le jeune homme ne connaissait pas Dieu, mais si Dieu n'avait pas été là, à la prière d'une chrétienne, il est sûr et certain, et je passe sur tous les détails, ce jeune homme aurait assassiné son père. Mais il fallait toute la grâce de Dieu, après des mois et des mois de séparation, pour réconcilier le père avec le fils. Le père n'aurait jamais fait un pas pour le retour. C'est le fils qui a fait un pas, peu importe. De mettre la main sur son père, c'est toujours quelque chose qui couvre de honte. Mais Dieu est celui qui fait grâce, qui veut réconcilier l'homme avec Dieu, qui veut mettre un terme à cette rupture. Et je ne sais ce que vous avez fait comme rupture. Moi, je me souviens, C'était simplement un drame de l'alcoolisme. Ce garçon connaissait pas bien son père, il venait seulement le voir que de temps en temps, à cause de ce qu'ils étaient, les parents étaient divorcés, les frères et sœurs, les petits n'avaient pas à manger, il faisait brillante et joyeuse vie avec ses amis, et ce jeune homme avait été fatigué, choqué de voir ce désarroi, de voir la pauvreté, de voir la misère de ses enfants et qui faisaient des choses mauvaises et que les gosses n'avaient rien. Voilà comment ces choses, on peut souffrir de l'enfance. On peut souffrir à cause de l'alcoolisme. On peut souffrir à cause de toutes sortes de choses. Il n'y a que Dieu qui peut guérir notre cœur. N'a que Dieu qui peut nous ramener vers lui. Parce que nous avons fait cette rupture avec Dieu. Et puis cette rupture nous a emmenés à un brisement, une rupture avec le père, avec la maman, avec différentes personnes. Mais Jésus est celui qui veut nous ramener près de lui. Il est celui qui veut nous faire grâce. Je voudrais terminer par ce témoignage. C'était en 1974. C'était à l'hôpital de Lisieux. Il y avait une petite fille qui avait une maladie, mucoviscidose. Et cette petite, c'était la période de Noël, elle était là. On m'a demandé de venir prier pour elle. Et puis il y avait tous les jouets qui étaient là dans la chambre seule. Qui était là dans cette chambre. Et puis il y avait les parents. Le père était un homme très grand. Il est toujours de ce monde. Et sa maman était là. Ce papa était donc communiste. Sa maman avait été élevée à l'école du dimanche à cette époque. Et puis les grands-parents, un dimanche, j'avais demandé au pasteur de présenter cette petite au Seigneur. Nous avons prié pour cet enfant. Et puis, peut-être au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, l'infirmière m'a demandé à me voir. Nous avons parlé dans le couloir. Elle dit, faudrait dire aux parents que c'est fini. C'est fini. Alors ils peuvent ramener la petite. Et puis j'ai dit aux parents, en rentrant, je leur ai dit, voilà ce qui va se produire. Et la petite, elle a dit, j'ai compris. Elle nous a jamais dit ce qu'elle avait compris. Mais moi j'étais là devant le lit, la petite devant moi, le papa à la gauche, il s'est mis à genoux. La maman à la droite, elle s'est mise à genoux. Ils ont pris la main de leur petite. Ils ont prié. Jamais je n'ai su ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Mais toujours est-il que quand ils se sont relevés, eh bien, l'un et l'autre, la suite l'a montré, ils avaient donné leur cœur au Seigneur. Vous pleurez peut-être un être cher. Peut-être un être cher. Je n'oublierai jamais ensuite. Les parents sont partis. Je suis resté avec l'infirmière. Ça remonte loin, 42 ans. Alors il n'y avait pas tout cet oxygène qu'il y a aujourd'hui. Et l'infirmière me dit, mais monsieur, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? L'oxygène, c'est vous qui prenez la responsabilité. C'est vous qui êtes infirmière. Je ne suis que pasteur. Elle a dit, je vais gonfler la corde d'oxygène, les poumons, on va prendre l'ascenseur. Ça nous paraissait, nous n'avions pas le choix. Mais dans l'ascenseur, la petite, elle est partie auprès du Seigneur. Il y a des êtres chers que l'on pleure. 42 ans après, je me souviens de cette épreuve. Il y a des êtres chers que l'on pleure. qui sont chers, qui nous manquent, que nous reverrons simplement dans la gloire. Mais le Seigneur est celui qui veut consoler notre cœur. Il est celui qui veut nous faire du bien. Il est le prince de la paix. Voulez-vous laisser entrer le prince de la paix dans votre cœur et dire « c'est fini, je romps mon silence, il n'y a plus de rupture avec le Père, avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec mon prochain, avec mon mari, avec mon époux. Que Dieu vous aide et qu'il nous aide. Que son nom soit glorifié, adoré à tout jamais. Manifeste ta présence. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Si vous avez besoin d'une consolation, d'une guérison, de mettre un terme à cette rupture avec le Père Céleste, venez, donnez-lui votre cœur. Levez-vous à votre place ou levez votre main et on va prier pour vous et avec vous. Vous pouvez venir sur le devant, on va prier pour vous. Que Dieu vous aide et qu'il nous aide. Manifeste ta présence. Gloire à Dieu. Surrender God's praise, might. Venez sur le devant, on va prier pour vous.